Alors, comme Josias a dit, nous sommes dans l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 5, à la page 437. 437. Et avant de lire le passage, je vais prier. Notre bon Père Céleste, merci pour cette parole qui vient de toi, que tu nous as donnée. Qu'elle soit pour nous une lampe à nos pieds, que ton esprit soit notre enseignant ce matin. Conduis-nous à Jésus pour avoir la vie en lui, la vie en abondance. Donne-nous de la sagesse pour que nous puissions vivre pour toi à la lumière de cette parole. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, l'Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore, ce qui représente un avantage pour le pays. À tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Ça aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Si ces richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère, et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. Cela aussi, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité. Il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie, parce que Dieu l'occupe en déversant sa joie, la joie dans son cœur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La pauvreté est un vrai fléau, n'est-ce pas? Bien sûr, la pauvreté est relative. Certains vivent heureux, en bonne santé, avec peu de ressources matérielles. Mais même si ça est vrai, de manière générale, la pauvreté, la misère, produit toutes sortes de maux, les maladies, l'exclusion sociale, la violence, l'exploitation. Elle nous donne souvent un sentiment d'être méprisé, d'être impuissant. La misère conduit souvent à la faim et à la mort précoce. Alors, certains d'entre vous ont vécu dans des pays, peut-être dans des régions, où il y avait une grande souffrance, une grande pauvreté, une vraie misère. Et certains d'entre vous l'ont connu de près, personnellement. Et cette misère n'est pas juste ailleurs. Elle n'est pas juste dans d'autres pays, mais elle existe en France aussi, parfois cachée, parfois pas cachée. Parfois dans l'histoire de l'Église, certains, surtout dans les ordres, les moines par exemple, ont fait des vœux de pauvreté. On peut même penser à Jésus-Christ, qui lui s'est fait pauvre, pour que nous puissions connaître les richesses d'une vie avec lui, avec Dieu, la vie d'un enfant de Dieu. Alors, ceci étant dit, je pense que la Bible ne nous pousse pas à chercher la pauvreté. La pauvreté en tant que telle est un fléau, quelque chose qui fait du mal. Elle est une conséquence de la chute, c'est-à-dire la rébellion de l'homme à l'égard de son Créateur. Et l'aliénation qui en a découlé a conduit à cette pauvreté, à cette misère. Qu'est-ce qu'il faut chercher ? Dans les Proverbes, nous lisons, « Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai, une fois rassasié, de te renier et de te dire qui est l'Éternel. Ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de l'Éternel, au nom de mon Dieu. » Proverbe chapitre 30. Alors, si la pauvreté n'est pas quelque chose de souhaitable, la Bible nous met en garde contre les richesses aussi. Et ce matin, l'Ecclésiaste va terminer une section qu'il a commencée au chapitre 4. Et ce matin, avec lui, on va méditer sur quelques aspects de la pauvreté et la richesse. Tout au long de son livre, l'Ecclésiaste médite sur la condition humaine. On vit dans un monde soumis à la frustration. Il médite sur la brièveté de la vie, sur la mort qui nous attend tous, sur le jugement qui nous attend tous. Et l'Ecclésiaste le fait pour percer nos illusions. Il le fait non pas pour nous faire sombrer dans la déprime, mais pour que nous puissions craindre Dieu, vivre pour lui, à sa gloire, d'une manière qui lui plaît. Pour que nous puissions profiter de la vie, autant que faire se peut dans un monde soumis à la frustration. Et si l'Ecclésiaste nous parle dans ce passage de la pauvreté et de la richesse, il le fait aussi dans ce but-là, pour nous aider à vivre pour Dieu, pour que nous puissions le craindre, pour que nous puissions vivre d'une manière sage, profiter autant que faire se peut de cette vie qu'il nous donne, en tant que créature d'un Créateur bienveillant. Et on va voir ça dans deux temps. On va commencer avec cette question de la pauvreté d'abord, et on va voir le contentement et la pauvreté. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir le contentement et les richesses. Donc d'abord la pauvreté et le contentement. Et dans un sens, c'est difficile de mettre ces deux mots ensemble, contentement et pauvreté. Comment est-ce que ces deux mots peuvent aller ensemble ? Et force est de constater qu'en réalité, c'est difficile de mettre ensemble les mots contentement et richesse. La dépression, l'amertume, ces choses font des ravages en Occident, dans les pays riches. Souvent, la dépression et les richesses vont ensemble. Au verset 7, l'Ecclésiaste revient à la question de l'oppression des pauvres. Il avait abordé tout au début de cette section, au début du chapitre 4, là il a parlé de la misère de la loi du plus fort. Ici au verset 7, il évoque l'oppression qui est souvent engendrée par l'hiérarchisation à outrance de la société. Verset 7, « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étends pas. Car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé. Et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. » Là, il évoque ce qu'on appelle l'administration à mille feuilles. Il y a toujours un fonctionnaire de plus au-dessus de celui à qui vous avez affaire. Et très souvent, il parle de manière proverbiale, c'est le pauvre en bas de l'échelle, soi-disant administrés, qui en paient les conséquences. Comment ça ? Soit les hommes de rang élevé se protègent mutuellement, ils protègent leurs droits, les privilèges de leur caste, et ils se soucient peu de ceux qui sont tout en bas. Soit eux-mêmes, ils subissent une pression énorme d'en haut, ils ont peur de ceux qui sont plus élevés d'eux. Et cette peur se déverse de manière ultime sur la personne en bas. Il n'est pas un administré qui a des droits, il est plutôt un amibe tout en bas de l'échelle alimentaire. Il est exploité impitoyablement. Il y a la corruption, le graissage de pâtes, les pots de vin. Et c'est finalement le pauvre qui en paie les conséquences, qui souffre le plus. Ou soit c'est juste le système qui est tellement difficile à naviguer pour le pauvre. Dans cette échelle administrative, le pauvre est très loin de celui qui peut vraiment changer sa situation. Il faut passer par plusieurs fonctionnaires. Il n'y arrive pas. C'est trop difficile. L'Ecclésiaste, tout roi qu'il est, voit lucidement cette situation. Il voit le lot des pauvres. Il n'est pas un roi qui s'est isolé de la population, des petites gens. Il voit leur quotidien et il voit que ce quotidien est souvent très difficile. Que l'égalité devant la loi fait souvent cruellement défaut. Il voit que c'est dur de vivre ça. Et c'est le monde dans lequel nous vivons, selon l'Ecclésiaste. Il dit, ne t'en étonne pas. Ne t'en étonne pas. Alors, ce n'est pas que l'Ecclésiaste soit contre toute tentative de réforme. Non, je pense qu'il n'est pas contre la réforme. Ça, c'est une bonne chose. Mais il ne veut pas qu'on soit dupe ou naïf. C'est le monde dans lequel nous vivons. Voilà une conséquence très pratique, très répandue de la rébellion de l'homme. La hiérarchie, l'autorité dans son exercice. Ces choses sont souvent opprimantes pour ceux qui sont en bas de l'échelle. C'est la condition humaine. Il suffit d'allumer la télé. On voit ça de par le monde. En ce moment, la Corée du Nord est un exemple particulièrement cruel. Alors le verset 8, le verset qui suit, est difficile à traduire. Il y a des traductions assez contradictoires. Certains traduisent ce verset en disant quelque chose comme « Même le roi exploite la terre pour son profit. » Le roi serait le gros méchant en haut de l'échelle, le problème. D'autres traduisent, comme ici dans notre traduction, « Ce qui représente un avantage pour le pays, à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre. » Alors, je ne prétends pas être l'expert qui peut trancher entre ces deux traductions. Mais ceci étant dit, les deux traductions nous montrent la nécessité d'un bon roi, un roi bienveillant. C'est lui, parce qu'il a besoin des récoltes, qui doit veiller un minimum sur le bien des petites gens. Il ne peut pas se passer d'eux. Et ainsi, il y a comme un équilibre des pouvoirs qui est un peu dans la création, dans la vie sociale. C'est peut-être, même si c'était sans doute plus compliqué que ça, c'est dans l'histoire française, c'est peut-être le non-respect de cet équilibre qui a coûté cher à la monarchie. Louis XVI a même perdu sa tête. Même si la République actuelle est loin d'être parfaite, je pense qu'on peut remercier Dieu pour la justice relative dont nous jouissons en ce moment. Mais le contentement au niveau du cœur ne viendra pas de la République. Dans les semaines qui viennent, on va assister aux élections et le mécontentement va, qui nous est si naturel, va faire surface. On va assister à des discours de méfiance, de mécontentement, d'amertume. Et même s'il y a eu des gains provisoires, même s'il y a des choses appréciables dans cette République, des choses à recevoir avec reconnaissance, on est béni. De manière ultime, tout ça n'apaise pas le cœur. Comment est-ce qu'on peut parler de contentement? On va voir dans les versets qui suivent que l'Ecclésiaste parle du sommeil du travailleur. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Oui, c'est dur de trimer, d'aller le matin avec le RER, 6 heures du matin peut-être. C'est dur de travailler, mais au moins on dort bien. Comme il a fait ailleurs dans son livre, l'Ecclésiaste nous invite aussi à la reconnaissance toute simple. De discerner en notre travail, dans notre nourriture, dans nos repas, des dons de notre Créateur. Oui, ce n'est pas toujours simple de gagner notre pain quotidien. On le fait à la sueur de notre front. Mais on peut recevoir ces choses avec reconnaissance, cerner en elles des dons, des cadeaux de notre Créateur, bienveillant, qui se soucie de nous. Alors peut-être que vous vous dites, c'est quand même peu de choses ça. Comment est-ce qu'on peut être content que de ça? Ne vaut-il mieux pas pousser, est-ce que ça serait pas mieux de pousser les pauvres à la révolution, à la violence, au renversement d'un régime corrompu? L'Ecclésiaste ne le dit pas, mais je pense qu'il dirait quelque chose comme « c'est futile ». Un roi est remplacé par un autre, un régime par un autre. Rebelote, c'est la même chose. Si nous suivons dans les Écritures ce thème de l'oppression et l'autorité, la Bible, je pense, ne nous incite pas tellement à la révolution, mais à la confiance et à l'espérance. Ésaïe, le prophète, nous parle d'un serviteur à venir. On a chanté au sujet de ce serviteur. Je cite Ésaïe 42, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. » Ça, c'est des personnes qui sont fragiles. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Il vient, celui qui va faire justice. Jésus, citant ce même livre, a commencé son ministère en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus, c'est lui le roi qu'il nous faut. C'est lui notre espérance. En fait, notre contentement trouvera sa source en lui. Il fera justice en son temps. Et en attendant, nous vivons en espérant en lui, dans la reconnaissance pour ce qu'il nous donne, pour notre travail, pour nos repas, pour notre sommeil. Alors, ce n'est pas simple de faire ça. Personne ne dit le contraire. Il faut une certaine intelligence spirituelle qui doit venir de Jésus lui-même, une espérance tenace que seul l'Esprit peut nous donner. Humainement parlant, quand on est là, en bas de l'échelle, peut-être dans la souffrance, on veut plutôt mettre notre espérance dans l'argent. Ah, si seulement j'étais plus riche, si seulement j'avais des moyens en plus, comme ça je pourrais peut-être sortir de ce cercle infernal, sortir de la misère. Être moins faible. Nous sommes à notre deuxième point pour ce matin, le contentement et les richesses. Alors l'Ecclésiaste n'est pas contre le travail. L'Ecclésiaste ne fait certainement pas l'apologie de la pauvreté. Comme on va voir à la fin du passage, si on a des moyens, l'Ecclésiaste nous invite à nous réjouir. Lui-même s'est donné du mal pour travailler, pour améliorer son lot dans la vie. Mais on va voir dans cette section que les richesses nous donnent des pièges, nous tendent des pièges. Et ironiquement, le bonheur est souvent mis au mal par nos richesses. Je dis ironiquement parce que souvent, très souvent dans notre esprit, poursuite de richesse et poursuite de bonheur vont de pair. On a vu ça il y a quelques semaines, j'ai cité Blaise Pascal qui, qui a écrit « Tous les hommes désirent être heureux », cela sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous vers ce but-là. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui se pendent. Et force est de constater qu'on se donne beaucoup de mal à améliorer notre situation matérielle. On cherche ce bonheur, en améliorant notre lot matériel dans la vie. Oh, peut-être certains d'entre vous ont vu vos parents galérer et vous voulez vivre autrement. Peut-être certains d'entre vous ont émigré pour échapper à la misère. Vous travaillez dur pour offrir quelque chose de mieux à vos enfants. Ou peut-être vous voulez juste simplement gagner un peu plus pour avoir moins de soucis dans la vie. Alors l'Ecclésiaste ne dit pas qu'il ne faut pas faire ça. Il n'est pas contre le travail. Il n'est pas contre le fait d'améliorer notre situation dans la vie. Mais il nous dit attention, il y a des pièges et il y a une bonne voie à prendre. Alors il commence dans cette section au verset 9 en parlant de nos cœurs. Alors il ne mentionne pas le mot cœur, mais c'est bien, il s'agit bien de ça. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Ça aussi, c'est de la fumée. Il s'agit de l'amour de notre cœur. Jésus a dit, là où est ton cœur, sera ton trésor. Celui dont le cœur s'attache à l'argent, ou bien aux expériences que l'argent peut nous acheter, au standing, à la réputation que l'argent peut nous procurer. Celui qui s'attache à tout ça ne sera jamais rassasié, jamais satisfait. Il y a un mensonge là-dedans. On espère être rassasié par ça, mais on est déçu. Parce qu'il nous faudrait toujours quelque chose de plus. Une autre voiture, une voiture en plus, d'autres vêtements. Des vêtements de marque, des vêtements comme des autres, d'autres vacances, une meilleure maison, une maison plus grande, avec jardin ou avec autre chose. Ou quand il parle de celui qui ne profite pas de ses richesses, peut-être il évoque celui qui veut toujours économiser, jamais dépenser quoi que ce soit. Il meurt peut-être millionnaire, mais il n'a jamais profité de son argent. Il n'a jamais dépensé un sou. C'est comme s'il n'a jamais eu d'argent. En tout cas, nos désirs les plus profonds, les plus importants, ne peuvent pas être comblés par nos biens matériels, ou par des expériences que l'argent peut nous acheter, ou la réputation que l'argent peut nous procurer. Ce n'est pas mauvais de travailler. Ce n'est pas mauvais de gagner plus. Ce n'est pas mauvais d'offrir de meilleures possibilités à nos enfants. Je pense que la Bible peut nous décomplexer à cet égard. Mais elle nous met en garde. L'argent ne rassasiera jamais nos cœurs. Et si l'argent ne rassasie jamais nos cœurs, mais on cherche pourtant à rassasier nos cœurs avec l'argent, ben voilà, il n'y aura que l'amertume, que la déception qui nous attend. Les riches sont souvent, pas toujours, des gens très tristes, très amers, très sur la défensive. Ensuite, l'Ecclésiaste met en exergue un autre facteur de vanité. Verset 10. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Je pense là, il évoque la présence de personnes qui gravitent autour des riches comme des vautours, qui vont lui demander des services, des faveurs, des choses, des repas, des prêts. Chacun veut sa part du gâteau. Et ensuite, ça fausse les relations entre amis, entre parents et enfants, entre responsables politiques et contribuables, même parfois entre frères et sœurs en Christ. Le riche a de l'argent, mais c'est comme si cet argent ne lui appartenait pas. Il doit entretenir ce monde qui l'entoure, qui veut profiter de sa situation. Ensuite, l'Ecclésiaste évoque les soucis et les tracas que l'argent peut nous apporter. Verset 11, le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. La satiété, c'est peut-être de manière littérale. Peut-être le riche mange trop, mange des choses trop riches, et ensuite il n'arrive pas à dormir le soir. C'est peut-être ça, on peut le dire comme ça. Ou c'est peut-être de manière plus imagée. Quand on a beaucoup d'argent, on a souvent beaucoup de soucis. On a souvent des responsabilités. Le patron a peut-être un bon salaire, mais il doit se soucier de beaucoup de choses. Les clients, les actionnaires, les banquiers, les employés, les syndicats, les fournisseurs. Il ne rentre pas à 17h30 sans plus penser au travail, pour ne plus penser au travail. Son sommeil est souvent perturbé. Il a des soucis. Parfois, sa santé, il laisse sa santé, ou il détruit sa santé. Le propriétaire, s'il a des maisons, des appartements, doit se soucier des impôts, des travaux, des locataires. Oui, bien sûr, le pauvre a parfois des soucis, s'il n'a pas assez à manger. Parfois, lui aussi n'arrive pas à dormir. Mais il y a une mise en garde proverbiale ici. Avec l'argent, c'est souvent le cas. Avec les biens en grand nombre, avec des responsabilités en plus, avec des salaires plus élevés, la vie peut devenir plus compliquée. Il peut y avoir des soucis supplémentaire. Et ensuite, l'Ecclésiaste évoque le malheur qui peut venir de l'argent. Le verset 13 évoque le cas d'un riche qui a tout perdu. C'est une misère. Il n'a rien à léguer à son fils. Il a eu de l'argent. Il sait ce que c'est d'avoir l'argent, d'avoir eu un train de vie luxueux. Mais de nouveau, il est dans la dèche. Il s'était donné du mal. Il s'est donné énormément de mal, il a peut-être fondé une entreprise, il a peut-être monté les échelons au travail. Mais à la fin, il n'a rien à montrer pour tout ça. Les richesses sont souvent fuyantes et source de problèmes. Il y avait récemment le cas d'une jeune Écossaise de 17 ans qui a gagné plus d'un million d'euros au loto. Elle était bien sûr ravie. Elle est partie en vacances, elle s'est acheté une maison. Elle s'est fait plaisir, elle était à la télé. Mais ce bonheur n'a pas duré. Elle était beaucoup critiquée par ses amis. Elle se sentait très seule. Elle est tombée en dépression. Aujourd'hui, elle pense attaquer le loto en justice parce que le loto a vendu un billet à une mineure. Pour elle, sa vie est comme gâchée. Elle est revenue vivre dans l'HLM de ses parents. On pourrait facilement répertorier d'autres exemples de stars, d'hommes politiques, d'hommes d'affaires qui ont eu de l'argent, qui en ont perdu, ou qui ont perdu autre chose à cause de l'appât du gain. Ou peut-être vous pouvez en parler de manière très personnelle. Peut-être l'argent est source de disputes dans vos familles, dans votre couple peut-être. L'Ecclésiaste ne s'arrête pas là. Les versets 17 à 19 forment la conclusion de cette section. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est la conclusion. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné d'en manger, s'il a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. Si l'Ecclésiaste a percé quelques-unes de nos illusions concernant l'argent, quelques-uns de nos rêves, mal fondé. Il a fait pour nous faire revenir à une perspective juste. Sans doute l'Ecclésiaste médite sur les premiers chapitres de la Bible, la Genèse. Et il est bien conscient d'être une créature créée par un créateur bienveillant. Et la perspective à laquelle il nous invite, c'est la perspective d'une créature qui connaît son Créateur, qui a une perspective centrée sur Dieu. Dieu est un Créateur bienveillant. Et en Christ, nous le connaissons comme un Père bienveillant. C'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous donne à boire, c'est lui qui nous donne du travail, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit bien rémunéré ou pas. Le contentement, la joie, le bonheur ne viendront pas de nos biens matériels, la quantité ou la qualité, mais ils viendront de notre relation avec Dieu, de la reconnaissance qu'on a envers lui. Quand on réalise, comme l'Ecclésiaste le fait au verset 18, que les biens que nous avons sont un cadeau de la part de Dieu, cette perspective-là nous transforme. Nous sommes des sujets de sa générosité. Ici en Occident, la plupart d'entre nous ont des biens en abondance. Nous avons des choses dont Louis XIV ne pouvait même pas rêver. Les voyages, les gadgets, la télévision, les machines d'électroménager qui facilitent la vie, les salaires ou les aides financières qui tombent à la fin du mois, quelle que soit la saison. Il s'agit là d'un cadeau de la part de Dieu. Parce que tu lui appartiens, c'est lui le Créateur, c'est sa création. Et si tu lui appartiens et s'il nous donne des choses comme des cadeaux, c'est pour que nous soyons des bons intendants de ses biens, de sa création. C'est pour que nous soyons des hommes et des femmes créés en son image, qui gèrent sa création pour lui, à sa gloire. Et sa générosité, ses cadeaux, doivent nous transformer pour que nous soyons nous aussi des intendants généreux. L'apôtre Paul était en prison lorsqu'il a rédigé l'épître aux Philippiens. Il a écrit ce livre, cette lettre, pour encourager les Philippiens à persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Les Philippiens l'avaient soutenu matériellement en prison. Ils avaient envoyé un des leurs. Ils avaient envoyé de l'argent. Et pour les encourager à continuer sur cette lancée, à continuer comme de bons intendants de leurs biens, et de l'Évangile. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a parlé de son contentement. C'est au chapitre 4 de sa lettre. Il a dit, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et quand on lit cette lettre aux Philippiens, on voit que Paul se réjouit dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui est la source de son contentement. Ce Seigneur qui s'est fait pauvre pour sauver son peuple. Ce serviteur qui a été élevé à la plus haute place, qui est le Seigneur. Ce Jésus qui est le Sauveur, en qui Paul se trouve caché avec la justice qui vient par la foi, une justice qui est un don, un cadeau de la part de Dieu, une justice qui fait que Dieu peut nous accepter comme acceptables, nous sommes acceptables à ses yeux grâce à cette justice qu'il nous donne. Connaître Jésus, c'est la source de son contentement. L'Ecclésiaste, lui, a vécu bien des années avant Jésus-Christ et lui, il revient au début de la création. C'est là qu'il puise la sagesse pour savoir comment naviguer la pauvreté et la richesse. Il a découvert qu'il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes des créatures d'un Créateur bienveillant. Et ça reste vrai pour nous. Et en même temps, nous savons plus que ça. Nous savons que en Christ, nous sommes devenus des enfants d'un Père bienveillant, un Père qui connaît nos besoins avant même qu'on ait ouvert la bouche. Il connaît nos soucis. En Christ, on a été réconcilié à un Père bienveillant, un Père qui dispose de toutes choses, qui peut prendre soin de nous quand on soit dans la pauvreté ou dans la richesse. Et c'est lui, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est notre trésor, Quand nous l'avons lui, nos cœurs sont en paix. C'est lui notre part. Et quand il est notre part, le contentement est possible. Et ensuite, la générosité est une joie. Il nous transforme en intendant joyeux, en intendant généreux, qui se soucie de notre prochain, qui se soucie de l'avancement de l'Évangile. On va demander à Dieu maintenant dans la prière de nous aider à garder cette perspective. Dans les épreuves, la pauvreté est souvent une très grande épreuve, et dans les épreuves que les richesses engendrent aussi. Donc prions. Notre bon Père Céleste, tu vois que trop souvent, nos cœurs s'attachent au bien matériel, qu'on soit pauvre ou riche. On cherche la solution en nos biens, on cherche le réconfort, on cherche la sécurité pour l'avenir, on cherche notre bonheur en ces choses. Et ces choses, même si elles nous donnent un certain contentement pour un peu de temps, une certaine joie, ne peuvent pas combler nos désirs les plus profonds. Père, nous voulons te demander de nous aider à ne pas tomber dans ce piège, dans ce mensonge. Donne-nous de fixer notre regard sur toi. Tu es notre part, tu es notre joie. Tu nous as donné ton Fils pour que nous puissions être à toi, être pardonnés, t'avoir comme Père. Et dans les jours qui viennent, nous voulons te demander de nous aider à vraiment fixer nos yeux sur Jésus, le Fils qui nous conduit vers toi. Tu vois là où nous sommes déjà piégés. Tu vois les mensonges que nous avons déjà crus. Et nous prions que cette parole débusque ces mensonges, nous libère de ces mensonges pour qu'on ne cherche pas notre bonheur dans ces biens matériels. Nous avons besoin de ton aide. Donne-nous de fixer nos yeux sur Jésus. Et nous te demandons ces choses en son nom. Amen.